Revue de presse de l'april, semaine 41, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico. Donc pas de Luc qui est parti se promener au Vietnam en ce moment et qui a bon vent puisqu'il y a un cyclone dans le coin. Bonne chance à lui. Donc en attendant, on a une petite revue de presse, 6 articles, mais qui sont quand même très sympathiques. On va vous parler de vie privée, de DRM dans le web, la London School of Economics et la DEPI, une rencontre au sommet, les logiciels libres et l'open data, non, c'est pas l'open data, c'est plutôt les biens communs, l'open source et le matériel libre, on va dire. Et pour finir, on va vous parler de Systématique et son président, Monsieur Fermigier, qui vont nous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment au niveau de son GTLL.
Donc, la vie, vie privée, il n'existe pas de contre-pouvoir face aux entreprises d'Internet, par Claire Legros.
Donc, un article assez étonnant, parce que la vie, je crois que c'est la première fois qu'on l'a dans la revue de presse. C'est un magazine web vraiment orienté chrétien.
Voilà, et là, il y a une interview de Tristan Nito, qui est le responsable, enfin, qui est le président de l'association Mozilla, et qui fait un retour sur ce qui s'est passé avec la NSA et la position justement de Mozilla par rapport à tout ça.
Alors, il se présente comme évangéliste, ce qui tombe bien pour un truc chrétien, hein, ça peut pas faire de mal. Et donc on sait, parce qu'il ne s'en cache pas, qu'il est pas mal dans cette mouvance. Donc là, c'était une occasion de se retrouver avec d'autres, notamment la présidente de la CNIL, Isabelle Folk-Pierrotin. Et ils ont discuté avec tout le monde, justement, vie privée, NSA, les grands sujets de l'été, ça fait mal. Et lui, il était intéressant parce que il contrôle d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, il a son mot à dire dans les développements de Firefox, qui est un des gros navigateurs que tout le monde utilise pour aller sur Internet.
Voilà, et donc lui, il disait que Mozilla, en tant que logiciel libre, prenait ses distances par rapport à tout ce qui s'était passé avec la NSA. Donc, en particulier, qu'apparemment, ils n'ont pas été approchés du tout par la NSA pour introduire des backdoors ou autre chose dans Firefox.
Alors, soit ils ont été intelligents à la NSA, ils ont détecté que ça ne servait à rien, soit ils ont un gag order, c'est-à-dire qu'ils ont un papier qui leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'en parler, sinon ils risquent d'aller en prison.
Voilà, donc on ne sait pas trop, mais apparemment, l'avantage de Mozilla, c'est que comme c'est du logiciel libre, n'importe qui peut aller regarder dans le code source. Donc ce que dit Tristan, c'est que si jamais il y avait une faille qui était injectée dans le navigateur, il y aurait forcément des gens qui le verraient, donc ça serait vite corrigé, quoi.
Alors il en rajoute un peu, il nous explique que les données personnelles ne sont pas collectées par Mozilla, l'association Mozilla, ce qui est quelque chose d'assez important de leur point de vue, parce que justement ils ne veulent pas nous tracer. Alors petit coup de pied à Google, Google son métier c'est de faire de la recherche web, et en faisant de la recherche web, eux au contraire ils veulent en savoir le plus possible sur leurs clients, tracer un petit peu ce qu'ils font, savoir ce qui va les intéresser le plus, parce que la publicité peut être vendue d'autant plus cher.
Voilà. Après, Mozilla a essayé de faire des choses aussi pour éviter de tracer les utilisateurs. Donc, par exemple, avec la suppression des cookies tiers, donc les cookies qui sont déposés par des sites extérieurs à ceux que vous visitez, par exemple Facebook, qui va venir déposer des cookies chez vous.
Ou souvent aussi d'autres publicitaires, parfois un peu méchants.
Et forcément, Mozilla s'est pris plein de retours de bâton de la part des publicitaires, parce que c'était un peu leur couper l'herbe sous le pied. Et donc, ils essaient de trouver comment faire pour arriver à ne pas suivre les utilisateurs tout en tout en respectant les publicitaires, en essayant de... Ils veulent pas vraiment tout casser d'un coup et laisser aux gens le temps de s'habituer.
En tout cas, ils font un bon travail, ils font un superbe travail et ils essayent de nous défendre, nous, les utilisateurs du web. Je rappelle, si vous ne payez pas un service ou si vous ne savez pas comment le service est financé, il y a des chances que ce soit par vous que vous êtes financé, c'est-à-dire on vend vos informations personnelles. C'est un très bon moyen de gagner de l'argent.
Voilà. Et une remarque aussi très intéressante que Tristan fait, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir sur Internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des grandes firmes qui contrôlent absolument tout, et que l'utilisateur final, il n'a pas son mot à dire, sinon cliquez sur « j'accepte les conditions d'utilisation », et il n'y a pas du tout de contre-pouvoir, on peut absolument rien faire contre les gros groupes type Google. Alors W3 Blog, à propos de la protection vidéo et du web ouvert, par Tim Berners-Lee.
Donc traduit par le Framablog, qui nous fait plaisir en montrant des bons articles. Et là, c'est un bon article écrit par quelqu'un qui fait une bêtise, de notre point de vue. Ouais. Parce que Berners-Lee, c'est un ponte du web qui, en grande partie, dirige les nouveaux standards et les évolutions. Et là, il a ouvert la porte au DRM, donc les menottes numériques. On fait la gueule énormément. Il y a eu pas mal de pétitions qui ont été lancées contre ça, on est vraiment embêté, et il y a aussi des grosses entreprises qui tapent à la porte, et donc là il vient un petit peu se défendre sur le blog du W3C qui est repris par Frama, et il vient un peu expliquer son point de vue.
Voilà, donc par rapport à la semaine dernière, on en avait déjà parlé, et il y avait beaucoup d'articles qui sont parus en disant bah, le W3C a fait rentrer les DRM dans l'HTML5, et là, Tim vient dire, attention, c'est pas encore fait, c'est quelque chose qui a été mis sur la table, qui commence à être discuté, c'est pas encore officiel ni définitif, maintenant les choses sont sur la table, il faut que nous, les techniques, on regarde ce que ça coûte, qu'est-ce qu'on peut avoir en échange de ces systèmes-là. Essayer de m'aménager la chèvre et le chou parce qu'il y a les gros éditeurs derrière qui peuvent arriver. Donc il dit rien n'est fait, on est juste là pour discuter, et donc c'est le moment justement, si vous avez des arguments, mettez-vous autour de la table et on se met à discuter.
Donc il y a une furieuse impression de « on a ouvert la porte », mais ne craignez rien, la discussion, le débat commence tout juste, on va voir comment ça va se passer et on va bien s'occuper des utilisateurs. Ce que je remarque, qui est un peu rageant, c'est qu'il le dit lui-même, pour l'instant, les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils auront en échange de l'introduction de ces monnaies numériques, ça n'a pas du tout été posé sur la table et ce sera à débattre. Donc il est un petit peu positif, un petit peu optimiste en disant « voilà, on va obtenir quelque chose ». Quoi ?
Voilà, et puis après, on sait qu'il y a tous les lobbies derrière et autres, et l'actualité donne assez raison aux lobbies en ce moment. Donc de dire que bon, bah, on va peut-être implémenter les DRM et puis on verra après pour si on peut avoir quelque chose en échange. Ça sent quand même le vent qui peut vite tourner pour le libre et se retrouver avec des DRM sans aucune contrepartie ou avec des contreparties complètement ridicules.
En tout cas, c'est mal barré pour les libertés.
Alors, Tsugi, pour la London School of Economics, Adopi n'aura servi à rien, par Clémence Meunier.
Donc, petit article rapide d'un nouveau site qui vient d'apparaître aussi dans la revue de presse et qui parle un petit peu de sujets qui nous concernent, hein, la Adopi, le contrôle des échanges sur Internet, le droit d'auteur, et bien le fait, voilà, Adopi défendait le marché de la musique et il se vantait, il se targuait d'avoir permis au marché de la musique électronique, enfin sur Internet, d'avoir augmenté. Il y avait plus de business grâce à eux.
Voilà, et en fait, la London School là, remet un peu tout ça à plat. Il constate bien qu'il y a des facteurs, enfin des chiffres qui ont bougé. Donc il donne l'exemple par exemple de l'achat sur iTunes qui a augmenté de 23-25%. La Adopi s'était félicité en disant que c'était grâce à eux que ça avait monté. Et en fait, là, le rapport dit, bah non, c'est peut-être un effet d'autres choses, mais en tout cas sûrement pas d'Adopi. Ok, on constate que iTunes a le vent en poupe, mais Adopi n'y est absolument pour rien.
Donc je rajouterai, allez jeter un œil, il y a une petite vidéo d'une artiste qui explique comment faire du crowdfunding, comment demander de l'argent sur Internet. C'est pas mal, c'est intéressant. Et puis bah là, ça fait toujours plaisir. Hein. Une école d'économie qui, a priori, doit savoir de quoi elle parle et qui parle dans notre sens, on est content.
Ouais. Après, il signale aussi que la Adopi qui dit qu'on a limité le piratage et l'échange de données, il y a aussi une grosse ombre qui devient une lumière pour nous, c'est qu'en fait, le piratage s'est transformé en librisation des œuvres. On trouve de plus en plus d'œuvres sous Creative Commons avec des sites du crowdfunding sur des sites comme Kickstarter. Donc en fait, c'est plus du vrai piratage, c'est vraiment de l'échange non commercial, et donc, c'est vraiment très très bien pour ça, et ça a changé les mentalités. Alors est-ce que ça c'est dû à Adopi ? Peut-être que ça sera le seul point positif de leur mandat.
Optimiste, va.
Alors blog, lemonde.fr, les logiciels libres, source d'inspiration pour les villes, par Anne-Sophie Novel.
Donc là, on parle de bien commun, et alors c'est un pêle-mêle de plein de choses qui se passent, en partant de Wikipédia et en passant par Brest.
Voilà, donc en fait, c'est des villes aujourd'hui qui commencent à suivre les bonnes pratiques du libre. Donc, c'est des villes qui vont participer à mettre à jour leur page Wikipédia, à mettre à jour les cartes OpenStreetMap, à partager avec de l'open data et à s'ouvrir sur leurs données, à mettre leurs données au bien commun, en fait, sous licence libre. Et donc, ça donne beaucoup de choses. Donc, l'article cite énormément de choses de fait. C'est un peu un fourre-tout. Il y a beaucoup de choses. Et c'est quelque chose de très intéressant pour éviter de se fermer. Ça revient à l'article, comme l'article précédent. Il y a une lame de fond de librisation des données.
Donc ça parle de libre et de durable dans la même foulée. Il y a aussi une question d'un festival.
Donc c'est le festival La Foire à la Bidouille en fait qui permet de regrouper plein de participants pour faire de la copy party, donc ce qu'ils appellent des copy parties, donc aller à la bibliothèque et puis recopier des œuvres et justement peut-être dans Wikipédia ou Wikimedia pour partager tout ça. Et donc tout ça c'est auto-organisé et avec le concept de monde distribué, enfin d'organisation distribuée. Il n'y a pas de tête ou de centre, chacun fait un peu ce qu'il veut, ça rappelle vraiment le développement logiciel libre.
Bravo, et on continue avec quelque chose qui est assez semblable, à Rome ce coup-ci.
Rue 89, open source, petit génie, gourou, traître, six façons de réussir par Sabine Blanc.
C'est dur comme titre, hein, notamment traître, qui apparaît comme ça un peu, cheveux sur la soupe.
Alors traître, en fait, c'est par rapport à MakerBot, qui est une société donc, qui à la base n'était pas une société, qui a fondé la RepRap, qui est l'imprimante 3D qui était libre. Donc il y avait les plans disponibles sur Internet. On pouvait monter son imprimante 3D à la maison. Et ils ont planté un couteau dans le dos en propriétarisant tout ça. Ils ont fondé une société et aujourd'hui, ben, ils ont fait une V2 de leur machine que plus personne ne peut copier parce qu'il y a des brevets, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de copier. Donc, bon, ben voilà les traîtres parmi les six qui sont présentés.
Alors par ailleurs, donc tout ça tourne autour d'un truc un peu plus intéressant, hein, beaucoup plus positif. C'est une rencontre qui s'est passée à Rome et qui a réuni plein de monde autour de l'open hardware, donc le matériel libre, on dirait. Donc justement, les imprimantes 3D, c'est un des composants les plus connus. Il y a d'autres choses, des hackerspace, des Fab Labs, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses et là aussi, c'est un gros pêle-mêle.
Voilà, donc il y a quand même trois choses qui se dégagent. Déjà, il y a la partie open hardware et surtout les petites cartes électroniques, donc les Arduino, les Raspberry Pi, les Beagleboard, qui sont des petites cartes qui coûtent pas très cher, une trentaine d'euros, et qui font des mini PC.
Et alors, si j'ai bien compris, il y en a une nouvelle qui vient d'apparaître et là qui est énorme.
Voilà, et là, il y a carrément lancé par Intel, donc la carte Galileo, qui est avec Intel, financée par Intel et fabriquée par Intel. Donc à voir ce que ça va donner, est-ce que ça peut parce qu'aujourd'hui ça reste très confidentiel le monde des Raspberry Pi ou des Arduino. Est-ce que ça pourrait être l'occasion de lancer ça à plus grande échelle? On verra bien ce que ça donne.
Voyez, je vous rappelle, c'est des petites cartes. Pas très cher, vous assemblez, vous bidouillez, vous mettez sur ce que vous voulez chez vous, sur votre char, si vous voulez, vous pouvez essayer, et bah, vous inventez des nouvelles choses. Très utile dans les écoles de Grande-Bretagne ont acheté des Arduino en grande quantité pour faire apprendre à leurs étudiants comment utiliser tout ça, c'est vraiment pas mal.
Ouais, et puis bon, ça a l'avantage aussi que c'est pas cher, enfin n'importe qui peut en acheter pour chez lui, donc même les étudiants ou les élèves peuvent après retenter chez eux, aller faire de la bidouille, et au moins on apprend vraiment ce que c'est l'informatique, on n'est plus juste passif derrière un clavier. Donc silicon.fr, Fermier systématique, Big Data après PC et qualité logicielle sont les défis du logiciel libre par Ariane Becky.
Donc c'est les trois thèmes présentés, alors ça doit être Stéphane Fermigier, il me semble, créateur de La Fulle, et qui dirige des choses vraiment importantes, hein. Il dirige une entreprise donc systématique et le GTLL.
Le groupe thématique logiciel libre, donc apparemment, est un consortium qui réfléchit autour du libre dans région parisienne avec pas mal de boîtes pour regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent agréger leurs compétences autour du monde libre. Donc là, pour lui, aujourd'hui, il y a trois grands domaines qui commencent à pointer et qui le libre a toute sa place à jouer. Donc c'est la partie big data, donc vraiment traiter les grosses grosses quantités de données. On en a déjà parlé plusieurs fois dans la revue de presse. Et donc là, le même constat, c'est qu'aujourd'hui, avec du libre, on peut traiter des gros, on peut mettre en place ce genre d'architecture, alors qu'on ne peut pas le faire avec des systèmes privateurs.
Je rajouterais, hein, on peut le mettre en place d'un point de vue technique, mais il y a aussi l'idée de pouvoir réutiliser les données si on les met comme bien commun et faire en sorte que tout le monde puisse les reprendre et essayer d'innover par-dessus. C'est des thèmes qui sont assez intéressants parce que proches d'une notion de démocratie participative que moi j'adore.
Voilà. Après, la deuxième mission du libre aujourd'hui, ça va être l'ère post-PC. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tablettes, mobiles, smartphones et puis objets communicants en général.
Oui, on rajoutera même les montres et les lunettes, hein, qui sont en train d'acquérir de l'intelligence. On ne sait pas où ça va, mais on voit que ça commence.
Voilà. Et donc bah, là-dessus, c'est pareil, le libre a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est super démocratisé sur le monde des tablettes ou des mobiles, loin de là, on a encore beaucoup de mal à avoir du vrai libre. Mais bon, ça arrive petit à petit, et donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et la dernière partie, c'est la partie qualité de code. Donc ça, c'est plus technique. Mais du coup, comme il y a une lame de fond libre, ben faut éviter que tout le monde puisse faire n'importe quoi. Donc ce sera mettre en place des outils pour vérifier qu'il y a une bonne qualité, que la maintenabilité est bonne, l'évolutivité aussi, et éviter d'avoir des usines à gaz dans tous les coins.
Alors moi, je dirais pas de la même manière. On peut faire n'importe quoi, mais il faut le faire bien. Et effectivement, c'est un sacré enjeu. Il y a du travail. Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.